Bonjour, bonsoir plutôt. Bienvenue à ce café littéraire où nous allons donc parler de romans historiques entre réalité et fiction. Alors on va tourner effectivement sur ce mot historique, sur le mot histoire. Je vais commencer en vous présentant les auteurs invités. Donc à ma gauche, Franck Seigneur est l'auteur donc, d'un roman qui s'appelle Samouraï 731, qui est un roman policier avec des éléments d'histoire. On verra comment s'introduit l'histoire dans ce roman. À côté de lui, Jeanne Cressange, qui est donc auteur aussi, donc essayiste, a écrit de nombreux romans, parfois relatifs aux Vosges, à la Lorraine, mais pas toujours. Et donc des romans qu'on peut-être qualifier d'historiques. On verra, on lui demandera son avis sur la question. Gilles Laporte, non ça y est, c'est bon, vous m'entendez toujours ? Donc auteur lui aussi, alors des fois je présente les invités, puis des fois j'ai l'impression que c'est vraiment pas la peine de présenter les invités. Donc auteur donc vosgien que vous connaissez bien de nombreux romans. On va parler en particulier aujourd'hui du dernier volume, est-ce que je peux dire trilogie familiale ? Bon, donc de sa trilogie familiale qui va donc raconter l'histoire d'une famille. Alors on va voir jusqu'où il va pouvoir aller dans les révélations. Moi je ne révèle rien, c'est vous qui ferez. Et donc à côté de lui, Frédéric Volo, auteur aussi de romans. Là il va être question du premier et du deuxième volume d'une série de romans plutôt policiers et historiques. Alors, comme il s'agit de romans, donc le sujet de ce café littéraire, c'est le roman historique. Alors, j'avais envie de vous demander à vous, à Jeanne Cressange, je vais commencer par vous, puisqu'on a abordé un peu la discussion hier. Est-ce que roman historique, ça vous plaît comme appellation pour qualifier ce roman, par exemple, voilà, le Luthier de Mirecourt ou d'autres romans que vous avez pu écrire ?
Mais c'est-à-dire que je crains toujours cette définition, cette appellation roman historique, parce que je me demande toujours ce qu'elle recouvre dans la tête des gens. Et en fait, je n'ai pas l'impression d'écrire des romans dits historiques. Je pense que j'écris des romans sur des sujets qui me tiennent à cœur, que j'aime, et puis des romans où quelquefois les personnages évoluent dans un contexte historique, mais pourraient évoluer tout aussi bien dans un autre. Enfin, bien sûr, quand j'écris ce genre de roman, je fais des recherches sur l'histoire. Dans l'histoire avec un grand H. Mais par exemple, pour le Luthier de Lichour que vous venez de citer, bien sûr que ça se passe au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, et bien, j'ai cherché à savoir comment était Mirecourt à ce moment-là, quelle était l'histoire des luthiers à ce moment-là, mais en fait, ce n'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéressait, c'est l'histoire de la lutherie. C'est plutôt ça. Et puis aussi, qu'est-ce que ça voulait dire, ce métier, qu'est-ce que ça signifiait. Et puis j'avais envie de parler d'un personnage qui avait la passion, bien sûr, de son métier. Et puis aussi d'un personnage... très, très charnel, qui mène une vie, disons, aventureuse. Et bon, c'est ça qui m'a intéressée.
Est-ce que ça vous convient, Frédéric Volo, par exemple, cette appellation de roman historique ? Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous trouvez ça réducteur, peut-être ?
Non, pas réducteur, mais peut-être que ça met trop le roman dans une case, alors qu'en fait, le roman... tout roman se situe dans une époque, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit ancienne. Donc, en fait, il devrait plutôt y avoir une appellation roman, point, sans roman historique, sans roman... mais peut-être que certaines certains y tiennent parce qu'ils sont plus intéressés par l'histoire. Alors, c'est vrai que moi, dans mes romans, je mets... parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire de France et d'ailleurs. Donc, je mets beaucoup d'histoires vraies dans mes romans. Donc, je fais beaucoup de recherches. Par exemple, pour ces deux-là, qui se passent dans le Paris du Second Empire, j'ai replongé vraiment dans les archives de cette époque-là pour connaître le Paris de l'époque, pour vraiment m'imprégner du climat qui y régnait. J'ai consulté tous les journaux de l'époque aussi pour connaître les faits divers, savoir ce qui se passait à telle époque, quelles étaient les réceptions données par l'empereur, etc. Donc mon héros que j'ai créé, Achille Bonnefond, lui va se fondre dans cette société qui a réellement existé, avec des personnages, il va côtoyer des personnages qui ont réellement existé, à commencer par l'empereur lui-même et l'impératrice Eugénie. Donc là, oui, on peut peut-être parler de roman historique par rapport à la somme des recherches qui sont faites pour le roman. Mais sinon, ça reste un roman, une histoire avec des personnages, comme le dit très bien Jeanne, qui évoluent au cours des romans, des personnages que l'on croit, on croit qu'ils vont prendre telle direction au départ, et puis finalement, on se rend compte qu'ils partent dans une autre direction. Il y a d'autres personnages aussi qui vont apparaître en cours d'écriture. Ça, c'est la part des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce sont en fait nos personnages qui nous guident. Et voilà, donc... Pour moi, le roman historique, oui, c'est historique dans le sens des recherches, mais ça devrait rester au sens large du terme un roman. Parce que malheureusement, quand on commence à mettre des romans dans des cases, c'est un petit peu réducteur, effectivement.
Gilles Laporte, est-ce que c'est l'histoire qui vous inspire ou est-ce que c'est le passé ou...
Pas particulièrement, tout m'inspire. Mais en réponse à la question roman historique, le roman historique n'existe pas. Ça n'existe pas. Victor Hugo, qui, auteur des Misérables, auteur de Notre-Dame de Paris, se mettait en colère à chaque fois qu'on parlait de roman historique. Il disait « Je n'ai jamais écrit de roman historique. J'ai écrit des romans », disait Victor Hugo. Et il avait raison. C'est du roman. Ce sont surtout les chapelles parisiennes qui éprouvent le besoin de mettre des étiquettes. Hein, roman historique, roman du terroir. Alors un truc qui me met en colère à chaque fois. Roman du terroir, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est vous qui l'avez dit, là.
Non, mais je tenais à mettre... C'est un problème qu'on met sur la table, parce qu'il est là tous les... Dans les librairies, vous avez des rayons roman du terroir. Dans les bibliothèques, vous avez des rayons roman du terroir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complètement imbécile. Il n'y a pas très longtemps, avec un journaliste de France Inter qui me demandait ce qu'était pour moi roman du terroir, je lui ai demandé si Mauriac et son Bordelais, c'était du roman du terroir. Il m'a dit non. Je lui ai demandé si Pierre-Jacques Hézélias et son Cheval d'Orgueil, c'était avec la Bretagne, c'était du roman du terroir. Il m'a dit non. Si Pagnol, c'était du terroir, non. Si Clavel, c'était du terroir, non. Alors j'ai fini en disant, mais alors quand Bec Bédé raconte qu'il sniffe de la cocaïne sur un capot de bagnole dans le 5e arrondissement de Paris, c'est pas du terroir parisien, ça ? On est dans cette situation complètement imbécile et qui concerne aussi le roman historique. Tout roman doit être installé dans une époque, qu'elle soit le XVIIIe siècle, qu'elle soit l'Antiquité, qu'elle soit le monde contemporain. Quand Bec Bédé sniffe de la coque sur un capot de bagnole dans le 5e, c'est un roman, il écrit un roman historique. Parce que dans 50 ans, dans un siècle, on pourra se référer à cet écrit-là pour savoir comment on vivait à notre époque. Donc voilà, il n'y a pas de roman historique, il y a du roman, il y a du bon roman et du mauvais roman, tout simplement.
C'est aussi les éditeurs qui ont des collections qui sont appelées terroir, Terre de France, etc.
Terre de France, c'est pas terroir. C'est pas terroir. Ce sont des romans qui sont implantés dans des régions. Mais comme l'était, je le rappelle, Mauriac, Pagnol, Giono, Clavel et bien d'autres. Donc voilà, pour moi, ces étiquettes-là sont des condamnations rester enfermé dans une espèce de prison dont on a un mal fou à sortir. Un peu comme les comédiens. Combien de comédiens sont prisonniers de rôles qu'ils ont joués, qu'ils ont remarquablement interprétés et dont ils ne peuvent plus sortir? On leur propose toujours la même chose. Un jour, je couvrais le Festival de Cannes pour la télévision, j'étais avec Jane Birkin, on discutait tous les deux, et elle me dit, tu sais pas, j'aimerais bien un jour pouvoir tourner une belle histoire, un beau rôle, tu comprends, parce que on me prend toujours pour une idiote, mais j'ai autre chose à te dire. Mais elle avait raison. Elle avait raison. Une fois qu'on est catalogué dans une étiquette sur le front, on est cuit. Donc, il n'y a pas de roman historique, il n'y a pas de roman du terroir, il y a des romans, de bons romans et de mauvais romans. Et parmi les prétendus bons romans décrétés comme tels par les intellos parisiens, il y en a de très mauvais. Et parmi les romans dits de seconde zone, terroir ou historique, il y a d'excellents romans que ne reconnaissent pas. Suis-je clair ?
Jeanne Cressant, je me disais exactement la même chose hier, avec le même exemple, le même parallèle avec les comédiens. Donc, vous voyez, c'est...
Bon. Et on ne s'était pas mis d'accord. Hein.
Non, tout à fait pareil. Donc, Franck Seigneur, vous n'êtes pas encore étiqueté. Mais
si.
Peut-être
un peu.
Un petit peu moins. Alors, votre roman se passe cependant dans les Vosges aussi. Et donc, il se passe de nos jours. C'est un roman policier. Où à Paris et dans les Vosges, on découvre deux meurtres atroces qui ont des parallèles. Et donc, l'enquête va se dérouler dans les Vosges. Et vous allez nous raconter un événement tout à fait particulier et méconnu de cette époque. Je vous laisse le raconter.
Alors, déjà en préambule, ce qui est amusant, c'est que au niveau des étiquettes, effectivement, moi, c'est pareil, j'ai la même aversion pour le roman de terroir. Et m'étant inspiré de faits historiques qui se sont déroulés localement, j'avais, dès le début de l'écriture, transformé les noms de villes, donc pour ne pas tomber dans le roman de terroir.
Firville,
et je suis tombé dans le roman historique.
C'est voilà. Un village, le nom est inventé, parce que vous
oui,
n'avez pas
c'est,
voulu...
Oui, c'est complètement inventé. Mais bon, je réside à Bruyères, et pour ne rien cacher, bon, puis les locaux reconnaîtront très rapidement Bruyères derrière Firville. Et puis bon, l'arrière-plan historique que j'ai utilisé, donc la venue de ces soldats japonais et hawaïens au sein des troupes américaines, donc venus libérer les Vosges en partie donc en 1944, il y a une bataille tellement terrible à Bruyères-Bifontaine qu'on ne peut pas ne pas deviner qu'il s'agit de ce secteur-là. Mais effectivement, au début, moi j'ai écrit un polar, j'ai pas écrit un roman historique, simplement l'histoire avec un grand H reste pour moi une merveilleuse source de matière. Et puis on est peut-être victime de notre conscience professionnelle. Je pense qu'on va peut-être tellement loin dans la recherche, dans le détail, que ben oui, au bout d'un moment, on devient presque plus historien entre guillemets que romancier. Et moi, parfois, on me pose des questions qui sont plutôt des questions relatives à l'histoire qu'à l'écriture même. Alors que je ne suis pas historien du tout. J'ai été fasciné par ces événements. Je les ai étudiés. J'en ai fait une matière. C'est une matière très dense. Je suis allé rechercher d'autres matières aussi dans le Japon. Bon voilà, j'ai un goût pour l'histoire avec un grand H, mais je ne suis pas historien. Donc c'est avant tout pour moi un polar. Moi j'ai écrit d'abord un polar. Et ça se lit comme tel, hein. C'est une sorte de cold case en fait. Hein. C'est une action contemporaine. Et les indices permettent de remonter, de soulever un peu les caisses archives et puis de remonter sur des événements antérieurs. Et on remonte sur des événements de 44 et après au-delà sur des événements s'étant déroulés au Japon et en Chine.
Vous le connaissiez, vous, Vosgien, d'adoption ou de naissance, cet épisode de la libération de cette ville par les Américains japonais ? Vous aviez entendu parler de ça ?
Non,
c'est très, très étonnant. Je croyais que c'était une fiction, en fait, au départ, mais c'est tellement méconnu.
Il y a un bouquin d'histoire, cette fois, qui a été écrit il y a 25-30 ans.
Par Pierre Moulin.
Oui, qui s'intitule ouais. « US Samurai ».
Voilà. Et d'ailleurs, je lui rends hommage parce que c'est ce livre-là qui m'a éclairé d'un seul coup. Moi, j'avais déjà une trame d'histoire que j'avais commencé. J'avais une trame. Et quand j'ai découvert le travail de Pierre Moulin, donc, qui est un bruyérois qui vit maintenant à Honolulu, puisque suite à ces événements, Bruyères a été jumelé à la ville d'Honolulu, d'un seul coup, ça a matché, comme on dit. Quoi. Ça a été les ingrédients étaient là, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'est un événement qui effectivement qui a une notoriété presque intramuros, qui ne dépasse guère le cadre des, j'allais dire, de Bruyères, mais bon, on va dire des Vosges. Alors que pour les Américains, pour les États-Unis, pour l'état-major américain, la bataille de Bruyères, c'est quand même une des 10 plus grandes batailles de toute l'histoire militaire américaine. Donc ça, c'est complètement fou. À l'intérieur du Pentagone, il y a une fresque, sur les murs du Pentagone, il y a une fresque bataille de Bruyères. Et par ailleurs, le fameux régiment, donc le 442e RCT, donc régiment Combat Team, donc de Japonais et d'Hawaïens qui sont venus se sacrifier ici, reste à ce jour encore le régiment le plus décoré de toute l'histoire militaire américaine. Donc c'est très connu là-bas. Vous allez à Hawaï, vous allez à Honolulu, vous parlez de Bruyère, il y a nécessairement quelqu'un qui dans sa famille a été lié à ces événements. Et ici, effectivement, ça ne dépasse pas le cadre de Bruyère. Alors bon, on va y travailler, il y a une association, il y a des volontés politiques qui se mettent en place pour créer un lieu commémoratif. Mais c'est une grosse entreprise.
Et pourquoi vous avez choisi le roman policier, en fait, pour...
Moi, j'ai pas... moi, je suis arrivé dans le roman sur le tard, un petit peu par hasard. Et puis, c'est ma nature, tout simplement. C'est ce qui m'inspire le plus. J'évoluerai peut-être vers d'autres styles. Mais pour ce que j'ai écrit pour l'instant, c'est ce qui m'inspire le plus. Et toujours avec un arrière-plan historique, voilà. Les pages sombres de l'histoire, les méconnues.
Et vous, Frédéric Volo, le choix du roman policier historique, s'est fait comment ?
Moi, en fait, alors j'ai écrit aussi des romans historiques tout court, en fait, dont l'action se passe en Lorraine. Et pourquoi le policier ? Parce que moi, je suis une fan d'Hercule Poirot. D'Hercule Poirot, de Sherlock Holmes. J'adore les policiers anglais où il y a beaucoup de meurtres, mais en fait, tout se passe presque en douceur. Il y a toujours une belle campagne, il y a des beaux paysages, etc. Enfin bref, je suis une fan d'Agatha Christie, entre autres. Donc, ça m'a paru tout naturel. D'essayer de camper une intrigue policière dans une époque qui me plaît particulièrement de l'histoire de France, qui est le Second Empire. Donc j'ai créé, peut-être un petit peu en pensant à Agatha Christie, un héros, en fait, un détective qui s'appelle Achille Bonnefond, qui est un homme issu d'une famille aisée de la très haute société de l'époque à Paris, dont le rêve, lui, était d'être à l'image de Vidocq. C'était son grand héros à lui à l'époque. Et il va défier son père, il ne va pas être dans les affaires comme son père le souhaitait, et il va créer sa petite société de détectives avec un de ses amis, Félix. Et puis, obtenant de bons résultats, Achille va avoir l'oreille de l'empereur et il va s'occuper d'affaires un peu particulières qu'on lui confie parce qu'elles sont, elles ont une connotation qui est un peu spéciale. Donc, on ne les confie pas à n'importe qui, mais on va le chercher lui. Donc, Achille, c'est un petit peu mon Hercule Poirot. Il est beau. Il est très beau, il est évidemment riche, il est donc issu de cette famille très aisée. Il habite à Paris, donc à l'angle du boulevard Capucine et de la rue de la Paix. Donc en plus, à cette époque, en 1861, il a vu sur la place de l'Opéra, on était en train à l'époque de construire l'Opéra. Donc il voit le Paris d'aujourd'hui se construire sous ses yeux. C'est un fervent défenseur d'Haussmann qui a été tellement décrié. Mais c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était de mettre en avant ce Paris de l'époque qui était en train de se construire. Donc il y a la fresque policière, il y a l'intrigue, il y a l'énigme, et en même temps, toujours derrière cette histoire de Paris qui est en train de se construire, les grands boulevards qui se font, enfin le Paris de l'époque, et dans La Vierge folle, donc cette intrigue se passe dans le milieu des chiffonniers, donc dans les bas-fonds de Paris. Aujourd'hui, quand on y va, on ne se rend pas compte de ce que ça pouvait être à l'époque, mais c'était un cloaque, c'était glauque, c'était un vrai coupe-gorge, on risquait souvent de se faire trucider, c'était malsain. Donc il y a toute une transformation que j'ai eu envie de mettre en avant grâce à une enquête policière. Donc l'enquête policière est aussi un prétexte pour connaître le grand Paris de cette époque et les transformations. Le 59 passage Sainte-Anne, c'est un petit peu différent. Là, on continue à suivre les grands travaux de Paris, les transformations, ce qui se passait là-bas, l'évolution sociale de cette époque aussi, avec ces très très riches. Il y avait une puissance, une richesse absolument invraisemblable, à côté d'une pauvreté également invraisemblable. Et il y avait aussi à cette époque la mode des salons où on faisait tourner les tables, où il y avait les spirites, etc.
Le spiritisme est
Le spiritisme est au centre de ce livre. Et Achille, pour mener son enquête, il a deux meurtres à résoudre, il va faire appel à Allan Kardec, qui était un grand médium à l'époque.
Qui a existé,
qui a sa tombe au Père Lachaise. Si un jour vous y allez, manquez pas d'aller voir la tombe d'Allan Kardec, qui est une sorte de dolmen en marbre. Il y a encore énormément de gens qui vont la visiter, qui la touchent, etc. Enfin, il y a un vrai cérémonial autour de cette tombe. Et c'est lui qui a codifié le spiritisme. Et comme ce sont aussi des questions qui m'intéressent, je voulais mêler mon intrigue policière au spiritisme de l'époque. Donc voilà, ça me permet de mettre en avant aussi des personnages qui ont existé et de les remettre un petit peu au goût du jour.
Est-ce que vous avez poussé le souci de la vraisemblance à essayer de faire tourner les tables ?
Oui, c'est-à-dire que il se trouve que dans ma famille, j'avais un grand-père qui faisait très souvent tourner les tables. Et pour tout vous avouer, j'ai près de mon ordinateur, j'ai sa petite table en bois, une petite table à trois pattes, celle qu'il utilisait, qui est toujours à mes côtés. Et malheureusement, moi seule, je ne sais pas la faire tourner. Donc, et malheureusement, mon grand-père n'étant plus de ce monde, donc, mais elle ne me quitte pas. C'est un élément important dans mon existence. Elle fait partie de mon petit panthéon.
Jeanne Cresson, la vraisemblance historique, c'est important pour vous ? Par exemple, quand vous écrivez sur les luthiers, Vous en connaissez des luthiers, vous en avez fréquenté, vous êtes allé voir des ateliers.
Ah ben oui, bien sûr. C'est-à-dire que dès que c'était très curieux, c'est parce que précédemment j'avais écrit un roman qui se passait dans l'époque actuelle, et j'avais une page à écrire sur un petit défaut d'un instrument, et j'ai été voir. À luthier, à Mirecourt, c'est comme ça que le roman a démarré. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, pourquoi roman historique ? C'est parce que, tout simplement, vous savez, le roman, souvent, c'est né du hasard. C'est le fruit du hasard. Du hasard et peut-être de choses intérieures que l'on a et qu'on a oubliées ou qu'on ne veut pas voir ou des choses comme ça. Par exemple, pour le luthier, c'était vraiment... J'ai été voir ce luthier et en entrant dans son atelier, c'est l'odeur. L'odeur et la vue des violons qui séchaient, et l'odeur de tous les éléments, non seulement du bois, mais du vernis. Et alors, il y a une chose que j'avais oubliée. J'avais certainement... fait tout pour l'oublier, c'est que quand j'étais petite, j'avais appris le violon. J'avais commencé à l'apprendre. Et puis, j'avais dû l'abandonner pour des raisons familiales. Et j'avais eu beaucoup de chagrin en abandonnant mon violon. Alors j'ai demandé, c'était à l'atelier de Pagès, j'ai demandé à Pagès si je pouvais toucher un violon. Et alors, je l'ai pris et puis j'ai eu cette sensation, j'ai retrouvé cette sensation d'enfance. Et c'est comme ça que tout a démarré, quoi. Et j'ai donc, comme j'aime la langue du 18e et que j'ai toujours rêvé d'écrire dans cette langue du 18e, j'ai placé mon roman dans le 18e et à ma grande surprise, quand j'en ai reparlé à Pagès, il m'a dit « mais c'est la grande époque des violons de Mirecourt ». Donc vous voyez comme le hasard joue, c'est pas parce qu'on se dit un jour on va parler de tel personnage, parce qu'il existe tout. Il y a le hasard joue énormément.
Et votre expérience aussi.
Oui, coup, c'est ça. Puis des expériences souvent qu'on a oubliées. Ouais. Enfin, pour moi c'est comme ça et je pense que ça joue souvent comme ça.
Gilles Laporte, donc vous, votre expérience personnelle et votre histoire. Et... Alors, je ne sais pas trop comment aborder parce que je ne sais pas exactement ce que j'ai le droit de dire. Parce que j'ai
tout.
Un peu le droit de révéler. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop dire de choses. Donc, au départ de votre trilogie, on a l'impression de lire un roman historique, cette famille de lui. Et puis, en lisant le troisième, on se rend compte que ce n'est pas vraiment une fiction, tout ce qu'on nous raconte là, et que de lui et Laporte, tiens, ça sonne. Ça a l'air d'être un peu la même chose. Alors, on parlait de documentation, etc. J'imagine que la documentation, quand on écrit son histoire familiale, ce n'est pas la même chose. Alors, vous travaillez comment quand c'est ça?
Mais ce n'est pas mon histoire familiale. Pas du tout. Il y a, bien sûr, comme tout romancier, j'ai nourri...
Dites-moi que le personnage, ce n'est pas vous, là, dans le troisième volume.
Pas complètement. Un peu. Mais comme tout romancier, mes histoires se nourrissent de mes propres expériences, de mon vécu, des situations que j'ai connues, des personnages que j'ai rencontrés, des émotions que j'ai partagées. Donc oui, je suis là-dedans, mais comme tout romancier, dans tout roman qu'il publie. Mais pas plus. Le point de départ de cette trilogie, avec Des fleurs à l'encre violette, c'est ma grand-mère paternelle. On est en 1873, elle était une jeune femme qui rêvait de devenir maîtresse d'école, comme on disait à cette époque-là. Elle ne pourra pas l'être pour deux raisons. La première, c'est que les filles n'allaient pas encore à l'université facilement à cette époque-là. Elles ne faisaient pas d'études, elles n'y étaient pas autorisées. Les mecs ne voulaient pas qu'elles aillent accéder à la connaissance, d'une part. Et puis la deuxième raison, qui est peut-être la première, c'est qu'elle était enceinte avant le mariage. Et que c'est encore un peu difficile parfois dans certains cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était quasiment criminel. Elle a donc été chassée. Étant chassée, elle a fait les boulots qu'elle pouvait, c'est-à-dire qu'elle est devenue ouvrière, elle est devenue éclusière sur le canal de l'Est. Et elle a eu deux enfants. Là, je quitte l'histoire de ma grand-mère. Elle a eu deux enfants, dont le cadet va entrer à l'école normale d'instituteur de Mirecourt et va devenir instituteur. Donc on entre dans cette, avec elle et avec lui, dans cette grande aventure qui est celle de la création, de la naissance de la Troisième République, et de la création par cette Troisième République de l'école publique, de la fameuse école de la République. 1882, les lois Ferry, qui ne faisaient que reprendre déjà des projets éducatifs antérieurs, du Second Empire notamment. Mais bon, voilà, ça a été la naissance officielle de cette école publique. Et je voulais raconter ça parce que je dois tout à l'école. Moi, je suis fils d'ouvrier de filature d'ici, des Vosges, et j'étais destiné à devenir ouvrier de filature. Si je n'avais pas rencontré un jour une maîtresse d'école qui m'ait invité à partager son amour de la langue, fait découvrir les subtilités, les richesses, les harmonies de la langue, je ne serais pas là aujourd'hui. Elle m'a invité à partager son amour de cette langue. Elle m'a permis d'obtenir comme prix de lecture au cours élémentaire première année le Don Quichotte en édition illustrée pour enfants, que j'ai lu des dizaines, des centaines de fois. Et je me suis dit que si je le pouvais un jour, j'écrirais des histoires comme celle-là. Donc je dois tout à l'école et j'ai peut-être pas décidé, mais ça s'est décidé pour moi aussi, de consacrer donc cet ensemble de trois volumes au cœur desquels se trouve l'école. Puisque avec La clé aux âmes, le deuxième, on est dans la période 1925-1954, on assiste à l'installation de l'école, à la consolidation de la République, malgré les convulsions politiques, sociales, économiques du moment, malgré la montée des violences, la naissance du nazisme, l'antisémitisme, les mouvements d'extrême droite. On se souvient des manifestations de février 1934 devant l'Assemblée nationale qui ont produit 21 morts. Donc tout ça est dans ce roman-là et mes personnages traversent cette histoire-là. Ce sont eux qui nous permettent de porter regard sur ces événements-là. On va évidemment traverser la Seconde Guerre mondiale et là, j'ai voulu que quelque chose qui est rarement évoqué, c'est-à-dire les souffrances, les tragédies vécues par les femmes pendant cette Seconde Guerre. On parle beaucoup des souffrances des hommes. Là, il y en a deux femmes qui viennent d'entrer au Panthéon, enfin la terre de leur tombe. Mais c'est un peu exceptionnel quand même. Hein. On commence seulement à se rendre compte que les femmes ont souffert au moins autant, si ce n'est davantage, que les hommes pendant ce conflit. Et j'ai voulu donc qu'un personnage porte toutes ces souffrances subies par les femmes. Mon personnage s'appelle Louise et elle fait partie de ceux qui ont dû subir le pire ici à Épinal en 1944. Donc ce roman se termine en 1954 et le troisième volet qui vient de paraître, L'étendard et la rose, couvre la période 1955-1984. on trouve là un jeune garçon qui est le fils de cette femme, dont il ne sait pas très bien s'il est fils d'Amerloc ou fils de Boche. C'est comme ça qu'on disait à cette époque-là, étant qu'en tout cas, qu'on parle de lui à l'école et au lavoir dans le village. Et il va, parce que sa mère a dû subir les assauts, un, d'un officier nazi, et deux, ensuite, elle a été violée par les États-Unis quand ils sont arrivés. C'était leur occupation principale. Donc, il est né de ces deux catastrophes et de ces deux tragédies qu'a subies cette femme. Et un jour, il décide qu'il va trouver s'il est fils de Boche ou d'Amerloc. Donc, il part dans cette recherche-là en même temps qu'eux. Alors qu'il était tout gamin, il avait une dizaine d'années, il a vu un oncle, parce que dans le milieu ouvrier dont il était issu, on ne lisait pas, il n'y avait pas de livre, lire était une occupation de fainéant. Un jour, après la mort de sa grand-mère, quelques jours après, il a découvert la bibliothèque de sa grand-mère. Oh, il n'y avait pas 150 bouquins, il y en avait peut-être une trentaine, tous des grands auteurs du 19e siècle. Il était là devant cette petite armoire dans une pièce du fond de la maison. Là, c'est un élément autobiographique. Et il était en train d'admirer les livres de sa grand-mère quand il a pris un magistral coup de pied au cul. Un oncle lui a dit « Tu dégages, t'as rien à faire ici ». Il a donc dégagé. Et le soir même, il voyait cet oncle vider cette armoire dans une brouette, conduire la brouette sous un mirabellier dans le verger, arroser les livres d'essence et y mettre le feu. Et ce garçon a juré devant cet incendie des livres, devant cet auto-da-fé, qu'un jour il serait écrivain pour remplacer les livres qui ont été brûlés. Donc c'est le point de départ de ce troisième roman et on va avec lui suivre toute l'évolution qui a été celle des années 1955-1984. C'est la fin, elle est finie. Enfin, on est encore dans les séquelles de la guerre d'Indochine. C'est la guerre d'Algérie. C'est l'OAS avec les attentats de l'OAS. Je l'ai dédié à Delphine Renard. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Delphine Renard, c'est la petite fille qui a été complètement massacrée, défigurée par une bombe de l'OAS destinée à André Malraux, à Boulogne-Billancourt. Malraux n'était pas là. C'est elle qui a tout encaissé. Aujourd'hui, elle est aveugle, cette pauvre fille. Elle est psychanalyste à Paris. Je l'ai retrouvée à l'occasion de l'écriture de ce roman. Et on est en relation maintenant. Mais bon, on a donc ces convulsions politiques terribles qui étaient celles de la fin de la guerre d'Algérie. Et puis, on a aussi dans ce roman tout ce que nous avons traversé et qui nous a bouleversés et qui a aussi été pour nous des moments de remise en question fondamentaux. Par exemple, tous les intellectuels de cette époque-là étaient complètement en adoration devant Moscou et devant le communisme russe. Et tout le monde allait en pèlerinage à Moscou, Aragon à, pour nous, tiens, Bruyère, Jean Lursa, en passant par Yves Montand, par bien d'autres. Tout le monde allait, Sartre, allait en pèlerinage à Moscou. Puis on a découvert un jour que l'Union soviétique, c'était pas tout à fait ça. Et on a découvert en 1974, par l'archipel du Goulag de Soljenitsyne, que le régime soviétique n'avait rien à envier au régime nazi. Donc on traverse cette période-là, on traverse évidemment 1968 et on arrive à 1980. Donc on est dans cette période de grande mutation qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et si j'écris ce genre de roman, c'est parce que j'ai envie qu'on se souvienne de là d'où on vient, pour comprendre un peu mieux ce que nous sommes aujourd'hui, et comprenant mieux ce que nous sommes, essayer d'imaginer un peu plus raisonnablement le passé, le futur.
Et justement, on croise un certain nombre de personnages historiques, de gens qui ont effectivement existé dans votre roman. Vous les traitez de la même façon que les personnages fictionnels? Vous avez certains égards avec eux? C'est des gens qui ont réellement existé? Vous les abordez comment?
Oui, il y a bien sûr des personnages historiques. J'évoque des personnages politiques, j'évoque des personnages, des artistes aussi, que rencontrent mes personnages romanesques. Je les traite en respectant scrupuleusement ce qu'a été leur vie. Alors là, bien sûr, c'est l'aspect purement historique. Comme le disaient mes voisins, il y a un boulot de documentation qui est rigoureux. Hein. Je ne vais pas faire vivre à Léon Blum ce qu'il n'a pas vécu. Donc, ce serait vraiment, je ne tords pas le cou à l'histoire. Ça m'est rigoureusement interdit, je me l'interdis. Mais en revanche, j'aime bien tricoter la vie de mes personnages romanesques avec leur vie à eux. Donc il se peut qu'ils se rencontrent, qu'ils se croisent, et que leur proximité ou physique ou intellectuelle, ou spirituelle d'ailleurs, influe sur leur propre sinusoïde de vie. Là, par exemple, mon héros va rencontrer le docteur Schweitzer. Il va à l'embarrainer parce que dans sa famille, il y a une lointaine tante qui est partie il y a longtemps travailler avec Schweitzer à l'embarrainer. Et il va rencontrer Schweitzer. Et j'ai eu la chance de correspondre avec l'auteur Schweitzer peu de temps avant sa mort et d'avoir d'excellentes informations de première main le concernant. Donc tout ça, je l'ai mis là-dedans parce qu'on est aussi là, au cœur d'une réflexion très très importante pour nous aujourd'hui. Schweitzer était le premier grand révélateur de la nécessité de respecter la vie, toute vie. Le principe du respect de la vie, c'est lui qui l'a enfin formulé de façon définitive. Et nos réflexions sur l'environnement aujourd'hui devraient bien s'alimenter de ce que nous a légué Schweitzer. C'est la raison pour laquelle mon personnage, romanesque, va aller rencontrer Schweitzer et avoir des échanges avec lui, que j'invite le lecteur à partager.
Jeanne Cresson, je vous faites par exemple le portrait de Voltaire. Comment vous maniez le personnage d'après ce qu'on sait et vous, comment vous l'utilisez?
Oui, eh bien, c'est ce que vient de dire Gilles est certain. Quand on met un nom et un nom connu, par exemple, dans les Ailes d'Isis, je parle de Vivant de nom. Bon, Vivant de nom, personne ne connaît ce personnage, c'est un personnage très intéressant. C'est marqué en lettres d'or sur le Louvre, puisque c'est lui qui a fait le Louvre. Bon, je cite ces deux exemples, Voltaire donc et Vivant de nom. Quand je cite les noms des gens, bien sûr que je respecte infiniment leur personnage. C'est-à-dire que j'ai relu une partie de la correspondance de Voltaire, puisque à un moment donné, mon luthier se trouve en relation avec lui. Donc, ils deviennent amis, malgré la différence d'âge. Et donc, il fallait bien que je puisse retrouver ce style merveilleux de Voltaire. Et dans les conversations et après dans les lettres qu'ils échangent avec mon luthier, retrouver justement le timbre, si je peux dire, de la voix de Voltaire. Donc j'ai repris dans la correspondance de Voltaire certaines phrases qu'il a vraiment dites, écrites, je veux dire, et puis aussi je l'amène sur des terrains de discussion avec mon luthier qui ont été les siens. Donc bien sûr qu'il faut être très très respectueux quand on cite un nom, on n'a pas le droit, effectivement.
Il y a aussi Madame du Châtelet qui est assez légère.
Oui, c'est ça. Alors Madame du Châtelet, c'est un personnage que j'adore, moi personnellement. Alors je n'ai pas fait un livre sur elle, mais je me suis arrangée pour vraiment la mettre dans ce livre. Et je la décris avec toute l'affection que j'ai éprouvé pour elle. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, on se prend de passion pour les personnages que l'on décrit, aussi bien ceux que l'on crée que ceux que l'on rencontre comme ça au cours de l'histoire. Et surtout quand on leur redonne vie, quand on essaie de leur redonner vie. Moi, par exemple, Vivant de nom, c'est un personnage, de temps en temps, je pense à lui, comme on peut penser, non pas un ami, parce que c'était un personnage peu fréquentable, mais malgré tout, j'ai fait un petit signe, j'ai fait un petit clin d'œil, quoi, voilà.
Franck Seigneur, donc dans votre roman, il y a un contexte historique très particulier. Donc vous distillez dans l'intrigue des données historiques pour que le lecteur ne soit pas complètement perdu. Mais vous avez aussi ajouté à la fin un dossier historique. Ça vous semblait important de ce complément? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement et pourquoi vous avez tenu à l'ajouter?
C'était important parce que, bon, déjà, il y a eu un choix éditorial. Et puis, effectivement, quand on est dans ce registre-là, moi, je voulais pas trahir la mémoire de ces soldats. Voilà. Donc, étant donné que il y a la fiction qui vient se mêler à l'histoire, à la fin, j'explique bien que le lecteur doit effectivement se poser la question de où se situe la frontière entre fiction et réalité. Et c'est vrai qu'on a rajouté un petit bonus d'une douzaine de pages pour sommairement expliquer réellement les faits historiques et puis pour faire la part des choses entre fiction et histoire. Et c'était une volonté de ne pas trahir la mémoire de ces gens qui sont venus là, ici, se sacrifier.
C'était pour bien séparer les deux.
Oui, tout à fait, oui. Pour faire, mettre en lumière ce qui est vraiment historique et puis ce qui est de l'ordre de la fiction. Après, il y a une autre partie dans le roman qui, donc concernant le Japon toujours, qui est moins peut-être un peu moins documenté, qui est plus de l'ordre du fantastique, mais qui pourtant est réel, hein, bon, d'après des lectures abondantes que j'ai pu avoir, et qui concerne la fameuse organisation du Lysidor. Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait des... Voilà, mes personnages japonais ne sont pas manichéens. Hein, c'est, y a la part d'héroïsme, donc de ces soldats venus ici. Et puis, en épluchant l'histoire du Japon, j'ai découvert des choses beaucoup moins nobles sur l'histoire du Japon, alors que moi, depuis longtemps, j'avais, comme tout gamin, fasciné par les samouraïs. On se fait, on a des clichés.
Le code d'honneur, la rectitude. Code,
exactement. Et puis, on se rend compte que, comme toute civilisation, elle a aussi sa part d'ombre, ses méfaits. Et là, c'est pas triste côté japonais quand même, quoi.
Et 731, cette unité, elle a existé.
Eh ben, ça tombe à point nommé. Le titre même du roman met en exergue un petit peu ce paradoxe, c'est-à-dire samouraï 731. On a le côté samouraï, donc le côté féodal, brillant, etc. Et puis ce chiffre 731, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un rappel de l'unité 731. Qui était un centre d'expérimentation que les Japonais, donc lorsqu'ils ont envahi la Chine, donc à partir de la moitié du 19e siècle, en Mandchourie, ils ont créé un petit Auschwitz avant l'heure. Et c'était un centre d'expérimentation où ils avaient des prisonniers donc par milliers. Ils les appelaient d'ailleurs des maroutas. Maruta, c'est une bûche. Donc pour eux, c'était ça n'avait pas plus de valeur qu'une bûche. Et ils se sont prêtés à énormément d'expériences scientifiques qui portaient surtout sur les poisons. Alors c'est important de le préciser parce que l'histoire a aussi ses petits arrangements et lorsqu'ont eu lieu les procès de grands criminels de guerre, certains des médecins qui officiaient au sein de l'unité 731 y ont échappé parce que les États-Unis entraient, tout de suite après la fin du conflit, entraient en guerre froide avec la Russie. Et ils ont vu dans ces travaux un intérêt réel, donc dans les recherches concernant les poisons. Et ils ont absous ces criminels de guerre de leur péché, tout comme ils l'ont fait avec Von Braun, hein, étudié, mis au point les V1, les V2 qui allaient bombarder Londres. Et Von Braun a échappé aux représailles, au procès, tout simplement parce que ses recherches ont permis par la suite d'envoyer les modules Apollo sur la Lune, quoi. Donc ça, ce sont les petits arrangements des grandes puissances avec l'histoire. Et donc Samouraï 731, on a dans le titre, on a ces deux facettes du Japon, quoi.
Une dernière question, Gilles Laporte, relativement en fait à la biographie romancée, vous avez écrit dans Julie Victoire, donc c'est pas vraiment un roman, c'est pas une biographie. Qu'est-ce que c'est une biographie romancée ? Pourquoi vous écrivez pas finalement ou un roman ou une biographie ? Vous choisissez un peu. Quelle est la différence en tant qu'écrivain pour vous ?
Ah, j'aime bien vous poser les bonnes questions. Hein. Pourquoi une biographie romancée de Julie-Victor Daubier ? Pour deux raisons. La première, parce que j'en ai écrit une de Chopin aussi, de la même manière. Parce que j'aime bien remettre mes personnages en situation. Une biographie sèche, historique, avec des notes de bas de page interminables, c'est quasiment illisible, c'est lu par quelques dizaines de personnes qui s'intéressent sur un sujet très pointu. Point. C'est un peu comme les thèses universitaires, ça ne va pas plus loin. Donc ce que je veux, c'est que mon personnage, aussi bien Julie Victoire que Chopin, rencontre le public le plus large. Et le public le plus large, j'aime bien qu'on lui raconte des histoires, de belles histoires. Or, la vie de Julie Victoire Daubier est une belle histoire, c'est une remarquable histoire, c'est une histoire... C'est un roman. Elle est née en 1824, elle est morte en 1873, épuisée à l'âge de 50 ans, après avoir bataillé toute sa vie pour que les filles puissent entrer à l'université. La Sorbonne l'a rejetée, l'a traitée d'idiote, de folle, d'imbécile. Elle a dû aller se présenter à Lyon pour enfin pouvoir se faire inscrire sur une liste de candidats au bac. Elle l'a décroché du premier coup en août 1861 et elle a continué à travailler pour que les filles puissent entrée dans cette université, elle est devenue la première licenciée ès-lettres de France, la première journaliste économique de France, elle était sur le point de devenir la première docteur ès-lettres, alors qu'elle est morte, lorsqu'elle est morte épuisée à l'âge de 50 ans sur sa thèse, une thèse dont le thème était, dont le sujet était la condition féminine dans la Rome antique. Donc ce personnage a tellement dérangé au XIXe siècle, tellement dérangé, que tous ses écrits ont été interdits par la Troisième République. Par la Troisième République, tenez-vous bien, par les Jules de la République, parmi lesquels il y avait quelques Vosgiens, dont Jules Ferry, dont Gilles Méline. Interdits de vente par ces gens-là. parce qu'elle dérangeait trop les hommes. Comme elle avait bousculé l'Église dans son monopole concernant l'éducation des filles, elle avait été condamnée par l'Église. Et parce que sa famille ne supportait pas qu'elle ait pu être cette femme frondeuse par rapport à son temps, après sa mort, ses écrits ont été brûlés. Donc, lorsque j'ai commencé les recherches à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, qui est l'endroit spécialisé dans, entre guillemets, un mot que j'aime pas beaucoup, le féminisme, le dossier Julie-Victoire Daubier fait qu'un millimètre d'épaisseur, il a dedans une carte de Marie Dagou, une carte de Georges Sand, qui l'invite à un dîner, il y a deux ou trois choses, ses diplômes, point. Donc sa vie était complètement occultée. Il y avait bien un travail universitaire qui avait été fait, mais qui était resté dans les fonds de tiroir d'une université que personne n'avait jamais ouvert, le tiroir. Donc, je suis parti à la recherche de cette femme, et parce qu'il était très difficile d'aller directement dans ses pas, ben je suis allé explorer sa vie par notamment les témoignages de ceux qu'elle fréquentait à cette époque-là. Elle fréquentait notamment le salon de Marie Dagou, qui, parce qu'elle était interdite de publication sous son nom de femme, publiée sous le nom de Daniel Stern, Daniel IEL, des travaux remarquables d'ailleurs. Et dans ce salon de Marie Dagou, elle rencontrait les personnages politiques, les artistes les plus importants de leur époque. Elle a fréquenté Liszt, elle a fréquenté Jules Simon, elle a fréquenté Émile Ollivier, qui est devenu le dernier président du Conseil du Second Empire. Donc il y a eu tous ces personnages qu'elle a rencontrés, et on a conservé les traces de vie de tous ces... Donc par eux, je suis revenu à elle. Et puis, ce qui n'apparaissait pas là-dedans, il y avait des trous noirs dans sa vie. Bah, j'ai fait comme un voyageur qui passe un guet. Hein. Je suis passé d'un pied sur l'autre, sur chaque élément connu. Et je suis arrivé sur l'autre rive. Donc, tous les moments qui étaient complètement vides d'informations, bah, je les ai écrits à la manière d'un roman. Voilà pourquoi j'ai choisi la forme roman. Un, parce que je voulais que le plus grand nombre découvre cette femme qui mérite d'être découverte, parce que tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a écrit, tout ce qu'elle a fait au XIXe siècle mérite encore aujourd'hui, en 2015, d'être dit, d'être fait et d'être écrit. Elle porte des condamnations sur la situation économique, sur l'imbécilité criminelle de la finance au XIXe siècle. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Elle écrivait ça en 1860. C'était une visionnaire. Donc, oui, il était important qu'on la redécouvre. Il a été publié en 2007, épuisé très vite. Et au cours d'un salon du livre à Nancy, Jean-Louis Debré, qui s'intéresse de près aux femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire, est venu me voir pour me dire « C'est vous qui avez écrit ça ?» Je dis « Oui, c'est moi. » Il est intéressant, je ne la connaissais pas. Je le prends et je vais voir ce que je peux en faire. Il l'a embarqué et puis il m'a téléphoné quelques temps après pour me dire « S'il y a une réédition et que ça vous intéresse, dites-le moi, je la préfacerai. » Il a découvert cette femme qui... C'est lui qui le dit maintenant, et il a raison, qui a un rôle essentiel à jouer aujourd'hui, à l'époque où notre société est devenue complètement folle. Elle remet les pendules à l'heure, elle nous recentre sur les valeurs qui n'auraient jamais dû nous quitter. Donc voilà le roman pour que sa mémoire soit la plus largement diffusée. Pareil pour Chopin.
Sortir de l'oubli, c'est une démarche qui vous parle, ça, par le roman, faire sortir de l'oubli, Franck Seigneur, les faits oubliés? Grâce au roman plutôt que grâce à l'histoire.
Oui, et puis les amener vers un nouveau public, c'est-à-dire les plus jeunes. Je le dis d'autant plus volontiers que moi je reconnais avoir été un piètre élève en histoire, et je le regrette, je le regrette beaucoup. Mais je pense que voilà, j'ai peut-être pas eu non plus les bons professeurs qui ont su m'intéresser aux faits historiques, parce que avoir des connaissances c'est une chose, après savoir les transmettre c'est tout autre chose quoi. Et là ça permet d'amener effectivement des faits historiques vers un public différent qui ne s'y serait peut-être pas ouvert autrement, donc par l'intermédiaire du roman ces personnes-là peuvent être intriguées par ces faits puis se dire tiens finalement je vais aller étudier. J'ai eu le cas, je corresponds avec certains lecteurs et qui sont ensuite allés voir les travaux de Pierre Moulin et puis qui prennent connaissance de ces faits-là. Donc c'est notre petite contribution à l'histoire et à faire en sorte que ces événements soient, que la mémoire du moins soit pérenne. Oui. Oui.
Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu si gentiment à mes questions. Je vous remercie messieurs, dames, et je vous dis bonne continuation de festival. Merci.
Merci.
Merci.